La Grange aux Chimères nous propose ses lectures de nouvelles, des nouvelles tout droit sorties de son nouveau concours de nouvelles 2022. Le thème cette année était l'inconnu. L'inconnu, une notion délicate à retranscrire sous forme d'icône culturelle, sauf à poser un grand point d'interrogation, tellement métaphysique. Dans cette époque d'information permanente, à l'heure où toute connaissance, tout savoir est à portée de main, où toute rencontre peut se provoquer, que nous reste-t-il d'inconnu? Et plus encore, que reste-t-il d'inconnaissable? Tel est donc le thème de cette année du concours de nouvelles, proposé donc par la Grange aux Chimères à Corps, et un thème proposé par Colline. Écrire une nouvelle est stimulant, valorisant et amusant. C'est aussi un moyen de questionner et de se questionner, de découvrir et de se découvrir. À chacun de trouver son style. 12 participants ont répondu présent à cette invitation d'écriture et voici donc leur regard sur l'inconnu. Je vous laisse savourer leur création. Et aujourd'hui, Roland de Courbier nous lit sa nouvelle « Ne me faites pas zinzinuler pour rien ». Puis Elisabeth Poitrineau nous fera découvrir « Le passager des saisons ». Et enfin, Anne Beaudemont nous lira « Barthélemy, ce grand méconnu », nouvelle écrite par Anne Onim. Et côté musique, vous entendrez un extrait du troisième mouvement de la symphonie numéro 3 de Philippe Glass, puis un extrait des Oiseaux exotiques d'Olivier Messiaen, un chant mongol, Ancestors, par le groupe Une Urtou, et Le Monde s'est dédoublé par Clara Isé.
Ne me faites pas zinzinuler pour rien. Avertissement au lecteur. Pardonnez le désordre régnant dans la structure narrative de cette nouvelle. Ce n'est pas parce que tout en ce monde semble actuellement ligué pour déstructurer nos bases, mais plutôt que, chose notoire, dans le monde de l'inconnu, tous les personnages semblent tomber des nues. S'empresserait-il de s'infiltrer dans le champ des possibles pour s'y régénérer? Aussi vais-je tenter de vous présenter une histoire dépourvue de repères et qui ne contient comme certitude que son point de départ. Au bout d'un chemin à Castinet, trois enceintes formées de murs en pierre sèche délimitant des demeures imposantes. Voilà pour le décor qui se distingue à peine à travers des brumes épaisses à la tombée du jour. « Tiens bien le volant, tu vas nous emmener dans le fossé. » Nous sommes enfin arrivés. Tu vois, on nous a bien renseignés. Enlève le frein à main et j'ai la pierre fendre ici la nuit. Le convoi s'arrête, sortent des voitures, une douzaine de personnes dans une tête emmitouflée d'un drôle de bonnet rose vif muni de deux oreilles qui rejoignent par cohorte, telles des lucioles, leur lieu d'accueil. « Je ne suis pas triste d'être enfin arrivée à destination, » soupire Isabelle, en ajoutant « Il n'y a pas de chien de garde en liberté, au moins. »« Je sais qu'il y a une chèvre. Tiens, la voilà qui vient à notre rencontre. »« Bon, je préfère rentrer. Quel froid sur ce cosse perdu. »« Demain, nous irons découvrir. Nous pourrons échanger, réfléchir ensemble autour de notre projet et d'un thé brûlant, » rassura Eliou. Habitat léger. Ça me fait sourire que ce lieu accueille le concept, tant les maisons en pierre qui le composent sont hautes, lourdes, bien campées, un peu austères. Quoi qu'il est vrai, pas hostile, répondit Elisa. La vie est un voyage. Certains le font avec des bagages légers, d'autres non, chantonna Eliou, le musicien, en parodiant l'accent d'Augustine Galliana. Mais l'essentiel, c'est le partage. Oui, enchaîna Laetitia, avec de bons ancrages au sol, on s'évite aussi les turbulences du parcours. Peut-être était-il là, comme beaucoup d'entre nous, comme arrivé en bout de course. Cependant, émanait d'eux détermination et espoir en leur choix, délibérément alternatifs. La vieille Chouette, familière des lieux, observait les nouveaux arrivants du haut de son chêne préféré, la nyctalope. Créature ambiguë, sachant plonger son regard au plus profond du gouffre obscur de la nuit, allant au fond de l'inconnu pour trouver du nouveau. Oui, les chouettes ont lu Baudelaire ici. De toute façon, dans une nouvelle de fiction, tout est possible. Intriguée, elle inclinait sa tête en direction de cet inattendu convoi de lucioles. C'est pourtant pas la saison, qui se dirigeait vers la bergerie. Pour en finir avec le point de vue de la chouette, ce qu'elle percevait s'apparentait plutôt à l'essence même du groupe, porteur de lumière. Des colibris ! Ce sont des colibris !
Bah, on n'a pas encore tout vu. On est loin de tout connaître, se dit le rapace, emblème de la sagesse. Un peu surprise tout de même, elle releva inopinément sa présence en poussant un cri d'orfraie à vous glacer le sang. Si bien que dans sa chaumière à moitié enterrée, une habitante du lieu se signa superstitieusement. Dès le lendemain, le groupe partit à travers le Causse, observer courbes, implantations, faune et flore, qualité de la terre, humer le vent tel un essaim d'abeilles, je le présume, cherchant à se poser au creux d'un tronc, conforme à leur attente, hospitalier, bien caché au fond d'un petit bois. Durant ce temps, se consultait à l'immobile au cœur de la chaumière un oracle dont le premier tirage mettait en garde contre les embardées, revêches et trompeuses du mental. « Le mental, c'est tout à fait comparable à monsieur un tel, » pensait la consultante. « Un tel se fait les demandes et les réponses, il s'embarque dans la rationalité absolue, il se torture à trouver les meilleures stratégies matérialistes, lui assurant des lendemains immanquablement juteux et la preuve de son intelligence supérieure. » À côté de la carte du mental est sortie celle de la conscience. Elle engage à se rendre réceptif à une autre possibilité, à accepter sa responsabilité dans la création de ses joies comme de ses misères, interrompue par la sonnerie du téléphone. Le téléphone sonne, maintenant. Et moi, comme une esclave docile de la technologie, je vais finir par décrocher, tempêta la consultante. Pourrait-on lui accorder un peu de calme ? C'est encore permis. Finalement, vaincue, dans le « on sait jamais, vaut mieux », on décroche. Au bout du fil, les rengaines. Les interlocuteurs muets qui raccrochent très vite sans un son, d'autres se présentant avec des titres ronflants, d'autres qui l'appellent systématiquement « monsieur ». Puis, pour la quatrième fois de la journée, de parfaits inconnus lui ont demandé son âge, si elle était propriétaire ou si sa maison était isolée. « Non, j'ai fait pousser du châtelain sur ma peau, monsieur l'ambassadeur, à 1 euro. « Si je suis éligible, oui, monsieur, parfaitement éligible à la souveraine paix. » Et vlan. Le combiné et son humeur chauffent sous les assauts de parfaits inconnus. Intrusifs, ces inconnus, là. Mais voix anonymes à l'accent récurrent, diseuses de discours appris, qui n'ont rien d'affriolant. Inconnus, dans l'impasse, synonymes d'importuns acharnés. « Bon, se centrer, » me dit la prochaine carte. « Ne pas tomber au niveau de la foule. »« Quelle foule ? Je suis seule. » Autoconfiné par plaisir. Ah, peut-être serait-ce la foule de questions qui assaille, la peur du changement. Mais non, aucune trace d'anxiété anticipatoire n'apparaît sur le descriptif de ma boîte de céréales bio. Plongé dans un silence monacal, tout à côté de la consultante, sous son dôme de pierre, un méditant, trappiste, dissèque la voyelle aiguë et cependant muette qui traverse sa pensée. Le « i » en initiale de l'inconnu peut s'écrire en minuscule ou en majuscule. En minuscule, il amène l'inénérable intrusion des fadaises quotidiennes, le lot commun de l'homme postmoderne. Minuscule, l'être humain. Comme une lettre à potage détrempée collée au creux de la trame des phrases. Et lui, le citoyen lambda, perdu, sans caractéristiques repérables, sans relief. La lettre, impuissante à former à elle seule un mot intelligible. L'inconnu en minuscule, souvent nommé le bel inconnu, à cheval sur sa blanche monture, a usé tous les bovarismes des campagnes, aussi illusoires que l'arlésienne, adepte du « trop tard » ou du « jamais », qui fit d'Emma et de bien d'autres des spécialistes de l'ajournement. La consultante jette un œil bienveillant sur le portrait de Saint-Expédie, foulant au pied le crasse du corbeau, montrant ainsi son peu de goût pour la procrastination. En majuscule d'office, Saint-Expédie. En majuscule, l'inconnu sur les ailes du rêve représente ce long voyage qui explore le connais-toi toi-même, pour en laisser émerger l'altérité, la notion d'appartenance à un tout. Un voyage, immobile, dont on ne ramène ni une collection de photos souvenirs aussi mortes une fois affichées que les portraits des défunts tant aimés autrefois, ni même un banal mal au dos, une dengue ou une malaria. L'inconnu, avec une majuscule, fait partie du projet de la cohorte de Luciole Colibri. Il se dévoile lentement. Il sculpte notre art de vivre, le bâtit sur les cendres probables. En tout cas, sur les braises, des récents autodafés d'un système de pensée agonisant. Ainsi, guidés par leur éclaireur qui volait avec délicatesse, les marcheurs en cohorte cherchent. Mâchant longuement la saveur de chaque graine, respirent, se préparent, car pour acter l'idée, il leur faudra, ils le savent bien, dégager une sente au trajet ancien, franchir des enchevêtrements de ronces qui barrent le passage. Le cri de la chouette l'a annoncé. Quand enfin le jeu de cartes, la chouette, les lucioles, le lieu, ses habitants, convergeront à préparer ensemble un moment festif, épicé, de saveurs nouvelles, les ronces auront achevé de s'écarter. La belle au bois dormant, dont on est pressé de ne plus entendre les ronflements pas vraiment glamour, faut le reconnaître, pourra enfin pleinement se réveiller. Et vous connaissez la suite. Un chaste baiser, suivi d'un réveil. Embrassé. Une autre carrière. Celle dont s'extrait la première pierre. L'inconnu, drapé de mystère auréolé du panache et du cadeau surprise, entrera dès lors en scène sans le moindre détour, tel le chevalier, baillard, sans peur, sans reproche. Et ceux qui iront à lui avec leur cahier de doléances, confiance et persévérance seront gratifiés. S'en trouve pour vous la vision de la scène. En écartant un buisson, on les distingue. Ils sont heureux, donc joueurs. Ils raffolent des devinettes posées par la chouette. En effet, lorsqu'elle veut réfuter sa réputation de lugubre présage, cette dernière aime à plaisanter. « Voyons, questionne la fabulatrice, connaissez-vous l'étymologie cachée du mot colibri ?» En langue des oiseaux, bien sûr. Colibri est composé du préfixe « co » avec et de « libri », les livres. Ce qui m'amène à vous poser naturellement la première question. Quel livre évoque un colibri ? Quel en est l'auteur ? Rabbi Jacob, avance une petite voix timide.
Inculte. Pour un futur agriculteur, c'est le comble, avoir l'esprit en friche.
Vol au-dessus d'un nid de coucou, poursuit-elle, indécise.
Non, l'auteur en est qu'un caisé. De toute manière, les colibris ne pondent pas dans le nid des autres comme les coucous.
Ils construisent un nid souple à base de graines, de plumes, de mousse, de fibres, de feuilles. Et même pour le brillant de l'édifice, ils emploient de la soie d'araignée.
Moi, je ne sais pas répondre à la question, mais j'ai lu un livre sur le colibri, et quand il crie, il zinzinule.
Merci. Quand même. Mais c'est pas pour autant qu'ils sont zinzins.
Ah, je sais, le cri du colibri de Michel Huth.
Tu brûles. Ce livre-là est une fiction, enfin que la réalité rattrape, pour un monde meilleur, davantage de sérénité.
Alors, vous donnez votre langue au chat ?
Voici la réponse, c'est légendaire, la part du colibri de Pierre Rabhi, cet éclaireur, sur des pistes inexplorées auxquelles on rend hommage. D'autant plus que certains esprits chagrins se sont livrés à un lynchage médiatique peu convenable en guise d'éloge funèbre, ce qui ne leur personne, car dans le thème « ignorance », le « i » minuscule est parfois très irritant, irrecevable, insultant pour l'esprit.
La chouette referma le livre ouvert du ciel étoilé un peu fort. si bien que cela fit sursauter une souris frileuse. Puis, tout prit son sens. Depuis, chaque matin, sur le toit d'une cabane, zinzinule un drôle d'oiseau.
Je vais simplement vous partager une petite variation poético-intimiste devant cette question universelle et vaste. Mon texte étant court, à l'instar de Roland, je m'autorise à un avant-propos sur les circonstances d'écriture. Rassurez-vous, ça n'a rien à voir avec le texte. La circonstance. Je suis arrivée à une rupture dans ma vie, ou du moins une sacrée barre de mesure, pour parler musique, dont j'ai quelques difficultés à m'accommoder. Au seuil de la retraite, donc, au bout de 60 ans, on se connaît soi-même, n'est-ce pas? On consent, peut-être, à laisser un paquet derrière soi, des valises dont le contenu est connu, pense-t-on. J'ai voulu là décrire, apercevoir non le contenu connu de ces valises, mais un à jamais inconnu qui se referme ici sur un point d'élégie. Bref, pour moi, l'inconnu c'est soi, ou plutôt c'est l'autre de soi qu'on a parfois la chance de rencontrer. C'est là-dessus que j'ai brodé. Une fiction bien sûr. Le passager des saisons. Il arriva par le sentier de la source, vers le 9e mois d'un été qu'on dira la saison infâme. C'était la guerre qui s'étendait. Comment avait-il réussi à atteindre notre coin perdu sans qu'on l'ait déjà arrêté? Il semblait venir de si loin qu'aujourd'hui encore je ne puis lui rattacher un pays. Il était petit, d'un brun rouge. Sa tête dépassait d'une étoffe végétale, peut-être animale, finement tannée, entièrement ligaturée par une liane polynésienne. C'est du moins ce que je pensais. Mais ce n'était que le tamier de la région où nous vivions. Ses pieds étaient larges et nus, ses jambes sèches et musculeuses, ses bras déliés et puissants. Et j'étais là à traire mes vaches devant cette apparition. Sur le pavé ensoleillé, l'ombre de l'homme s'élançait, telle une hache, entre moi et mon bébé dans son osier fixé sur le mur opposé. Étrangement, je n'eus pas peur. Il me semblait tout à la fois désemparé et plein d'espoir. Je le laissais tout observer. Au bout d'un temps indéfini, il ramassa sur les pavés le hochet girafe qui fait « couic ». Je l'entendis rire de la glotte. Puis il le passa dans sa liane et me regarda. J'assentis. J'ai à présent 80 ans et je ne sais pas pourquoi j'aurais attendu si longtemps pour raconter l'étrange histoire de mon petit Bouvier muet. Est-ce ton regard, mon petit-fils? Sa façon de s'épanouir ainsi qu'un chrysanthème gris? Il faut que tu saches l'origine de ton étrange prénom, Victoc. Muet, il ne l'était pas. Il parlait une mélodie surmontée de toc et de cloc, rythmée par de secs sons de clave. Il voulut bien prononcer vac pour les vaches, à qui il vouait une dévotion sans limite, et appela ta mère Cactique. Le nom Catherine ne passait pas. Il n'apprit jamais notre langue, car nous nous comprîmes ainsi. Quant au reste du village, il lui resta indifférent, et réciproquement pour finir. Sa planète fut notre ferme, ses pâtures, ses champs, ses bois et son minuscule cours d'eau. Je lui trouvais des vêtements, mais il conserva sa liane. Si je la passe à mon cou, vois, elle dégringole jusque par terre. Elle est lourde, et puis elle est drôle. Il ne s'écoula pas d'années où il n'y accrocha un jour un objet qui le transportait. Il y eut en second, je me souviens, cette double pomme de pin. Puis tous les autres, ici ou là. Il y a même une fois surgi un poulet lié par les pieds. Le premier qu'il avait coursé, tué, trempé, plumé, vidé. Quelque chose l'ébaubissait. Après une gestuelle rythmée de quelques sons incantatoires, prestement il le dépendit. Cela fait maintenant 12 ans que le dernier fut accroché. Ton hochet tortue qui fait couic, tu le lui offris toi aussi, juste avant les événements. La satanée saison prit fin et ton grand-père ne revint pas. Ta mère et moi, nous devions vivre, Victoc aussi. Pourquoi n'alla-t-il pas plus loin? N'essaya-t-il pas de rentrer? Nous ne nous fîmes pas la question. Il y eut dans le voisinage 1000 sortes de réactions, des enquêtes sur le petit homme, des médisances. On essaya de le ranger, en institution, en prison, mais aussitôt il s'enquistait, et on le recasa chez nous. À la longue, les murmures cessèrent, et il apparut qu'en silence se dit l'envie, puis le respect, et puis le silence vrai. De toute l'histoire paysanne, je n'ai jamais ouï décrire un ouvrier plus accompli. Les saisons étaient son 7e sens. La nature, son prolongement, les vaches, ses vénérés collègues. Et notre entente. Indescriptible. Mon cadeau vint sur la saliane. Et je sais qu'elle est le sien. Cette liane, un collier calaharien de bienvenue, d'offrande, d'amour. La fin fut précipitée, nous eûmes le malheur de connaître une débâcle agricole. Un plan d'aménagement fit que la ferme fut condamnée. Lorsque j'annonçai à Victoc que le temps, les saisons changeaient, que la mienne devenait retraite, il ne comprit pas, je crois, et il ne réagit pas. Mais quand il nous vit embarquer dans l'automobile de ton père, le contenu de la maison, il eut un violent sursaut. Et je ne réalisais pas qu'il entrait dans une folie, non, une décision. Les 1000 et fins plissements de sa figure aimable se tendirent nets et secs, comme la peau d'un tambour, comme un bouclier plat. Il me sembla que le mercure de ses iris allait verser par-dessus bord de ses paupières. Puis, son regard se durcit, anthracite dans les salières de ses orbites. il voulut rester le dernier, la dernière nuit, dans l'étable, avec les vaches. Et là, il avait bien compris que le fourgon de l'abattoir allait les embarquer à l'aube, et nous viendrions le chercher. Le camion reprit à vide le chemin retour de la Cluse, à une vitesse phénoménale. L'employé ne décrit qu'une fois l'hécatombe dans l'étable, et le petit homme au milieu, dans son tissu et sa liagne, chargé des objets précieux. Le temps finit par prendre note quand cet état tout se figea, sans qu'un visiteur n'y revienne, sans qu'un voyageur n'y passe. Il me convient que la nature ait repris cet obituaire, sauf la liane et ses suspensions. Le médaillon ne s'ouvre pas. Si pourtant quelqu'un d'autre, un jour, allait repasser par ces lieux, pourrait-il seulement distinguer, sous le fenil effondré, au pied d'un grand ossuaire, le squelette d'un petit homme ? Alors j'ai une petite note de l'auteur. En 1939 a eu lieu l'exposition universelle coloniale, qui a présenté entre autres, tout vif, les cannibales kanaks, la Vénus hottentote, etc. Tous ces gens ne restèrent pas en place. Ils ne furent pas tous rapatriés.
Barthélemy, ce grand méconnu, de Anne Onim. Barthélemy est insomniaque. Il lit souvent durant toute la nuit et restitue généreusement à son cercle de lecteurs privilégiés, le jour suivant, tous les produits de ses méditations et trouvailles nocturnes. Il mérite, et s'approprie chemin faisant, un statut riche et original de « chercheur de vérité ». Tout ce que l'on croit connaître fond et change de forme dans les brumes épaisses de l'illusion où l'on s'englue. Il referme le livre sur ce dernier message de l'auteur « L'heure est sombre ». « Il est temps de changer d'horizon », lui répond le beau Bart. C'est le surnom que lui donna sa mère dès qu'elle posa son regard plein d'amour sur cet unique exemplaire au monde de bébé souriant. Il fut par elle enveloppé en son aura, telle la chrysalide dans son lange soyeux. Il se plaisait par autodérision à signer de ce pseudonyme ses messages à certains de ses amis. « Eh oui, je suis le Bobart phonétiquement. Je suis venu au monde dans un grand rire gargantuesque et dès lors, j'ai symboliquement incarné la plaisanterie teintée de puéril mensonge. » Ne vous y méprenez pas, Barthélemy est un être très cultivé. Tel Mallarmé, il aurait pu s'exclamer. La chair est triste, hélas, et j'ai lu tous les livres. À cela près que sa chair avait été moins consumériste que consumée, et sa première chair démontée point par point. Il lui fallait s'enivrer maintenant de parfums attachés à de lointains souvenirs dont il ne retrouvait ni l'authenticité ni le sens inaugural. D'autres odeurs nauséabondes remontaient, comme jaillissant des bouches d'égout, repoussantes, des odeurs de sang et de trahison. Fervent défenseur de l'humanisme, il étouffait sur la prise d'assaut des faiseurs d'embrouilles qui engluaient le tabernacle, appelons tabernacle l'espace sacré, ce pays intérieur des habitants de la planète bleue, et qui estampillaient l'esprit sous une chape de plomb, de graphène, ou devrait-on dire d'argent. Fut-elle richement ornée, la tombe demeurait la prison de l'âme pour certains. Fuir, là-bas fuir. Non, s'enfuir, ce n'était pas son genre. Tout de même, savoir que les oiseaux sont ivres parmi l'écume inconnue et les cieux invite au voyage. Les parfums de la brise marine, l'écume inconnue, l'appel. Il s'interroge sur la formule du poète, ce magicien des mots, qualifiant de cet adjectif vague et voluptueux l'écume. Elle a pourtant un goût, une forme, sans doute fugace, légère, évanescente, qui se fixe quelques instants comme une laque vaporisée sur une chevelure. Assez de temps pour qu'on l'identifie. Le poète évoquait-il l'écume d'autres mers, d'autres horizons? Seul un fin goûteur capable d'y déceler les nuances subtiles appréciera. Cette écume inconnue figurerait-elle une porte? Une porte de passage entre deux infinis liquides. Le jour se lève par degrés. Le Bobart se lève aussi, mais avec moins de grâce légère. Tel un robot, il se dirige vers la cuisine pour, dans le bol noir de son café brûlant, verser un nuage de lait sur lequel il se surprend à rêver qu'il s'évapore doucement. Tandis que l'écume laiteuse s'élève, lui s'endort, tête roulant sur la providentielle surface en bois lisse et douce de sa table de cuisine. Dans son rêve, il touche à une autre réalité, une croisée s'ouvrant sur quatre chemins. Un croisé, tout droit, martial, bien décidé, en face. Une vieille femme, toute de noir vêtue, une mamée du sud, tourne à droite et trottine comme une souris sur l'immense route déserte. Soudain, le croisement se met à tourner à une allure vertigineuse, puis la roue s'arrête brutalement. Les arbres, les routes, tout le décor bascule. La vieille dame se retrouve dans les bras puissants du croisé qui la porte, la serre sur sa large poitrine, à l'endroit même où son habit est marqué d'une croix. Puis, lentement, comme une femme qui se maquille, par petites touches, le paysage devient cristallin. Une brume vaporeuse et scintillante recouvre bientôt tout alentour. La lumière diaphane ne laisse plus apparaître qu'un seul chemin. Le croisé l'emprunte, avec son léger fagot humain dans les bras. Corps et âme liés, ils entrent dans leur univers, d'où ils n'auraient jamais dû sortir. Il est fréquent que des personnages s'ennuient dans leur livre de vie. Ils sautent alors à pieds joints dans l'inconnu. S'égarent un temps, mais toujours se retrouvent. Ce fut la conclusion du beau Bart quand il se réveilla, le cou un peu endolori. Et il ouvrit la fenêtre de la pièce pour faire entrer le soleil.
Ce matin, il est arrivé une chose bien étrange. Le monde s'est dédoublé. Je ne percevais plus les choses comme des choses réelles. Le monde s'est dédoublé. J'ai pris peur, j'ai crié que quelqu'un me vienne en aide. Le monde s'est dédoublé. J'ai accueilli un ami qui m'a pris dans ses bras et m'a murmuré tout bas. Regarde derrière les nuages, il y a toujours le ciel bleu azur qui lui vient toujours en ami te rappeler tout bas que la joie est toujours à deux pas. Il m'a dit prends patience, mon ami prends patience, vers un nouveau rivage, ton cœur est emporté, l'ancien territoire t'éclaire de ses phares, t'éclaire de ses phares. Ce matin il est arrivé une chose bien étrange. Le monde s'est dédoublé. J'ai senti le temps se fondre un instant sur les visages mêmes. Le monde s'est dédoublé. Vos corps que je percevais hier encore dans leur exactitude ont perdu leur densité.
Ton cœur est emporté, l'ancien territoire t'éclaire de ses phares, t'éclaire de ses phares.